la science politique est un ensemble en lui-même évidemment très hétérogène. Disons que moi je me situe plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie politique, qui considère, je vais très vite, hein, qui considère grosso modo que, en gros, pour étudier des phénomènes politiques, quels qu'ils soient, hein, des engagements, des votes, ou la production de politiques publiques, il faut déjà s'intéresser, bien sûr, à la position sociale, aux positions sociales, aux trajectoires sociales et politiques des acteurs. Je résume, et c'est une façon de situer, en gros, ce que j'essaye de faire avec d'autres, bien sûr, en sciences politiques. Alors, pour compléter ce que vous avez dit, effectivement, avant de travailler sur la Confédération paysanne, j'avais travaillé plutôt sur le vote FN et le vote FN en milieu populaire. Et vous avez vu que c'est toujours d'actualité, hein, depuis dimanche dernier. Et toujours, au fond, dans cette même démarche de sociologie politique, après la thèse, on a commencé une autre enquête collective, cette fois-ci. Hein, c'est l'enquête qui est actuellement menée dans le Châtillonnais, avec Julien Michy, Nicolas Renaï, Gilles Laferté, Juliette Rogers, qui est là. En fait, on fait à la fois une revisite des enquêtes, hein, qui ont été menées dans le Châtillonnais dans les années 60, et on mène de nouvelles enquêtes, donc sur la période plus contemporaine. Et dans ce cadre-là, avec Nicolas Renaï, on a travaillé sur le pouvoir politique local. Voilà, donc c'est un peu au fond. Alors, le sujet est différent, mais la démarche, si ça vous intéresse, il y a des publications, on commence à publier aussi sur cette enquête collective. Donc je vous y renvoie. Donc la Confédération paysanne, donc effectivement c'est ma thèse que j'ai soutenue en novembre 2006 à l'université de Nanterre. Ça commence un peu à dater, 2006, même si j'ai prolongé cette enquête. Tout d'abord en réalisant quelques entretiens dans le département de la Côte d'Or en 2007-2008, puisque j'étais en postdoc donc à Dijon, donc j'en ai profité pour voir si ce que j'avais pu écrire sur l'Orne et l'Aveyron, je vais y revenir, pouvait coller aussi dans un autre département. Et puis j'ai fait aussi un retour rapide sur mes deux principaux terrains d'enquête, l'Orne et l'Aveyron, en 2011. Alors, je ne sais pas trop ce que vous connaissez de l'histoire de la Confédération paysanne. Alors, je vais commencer en guise d'introduction par évoquer cette histoire de la Confédération paysanne à l'échelle nationale et très rapidement à l'échelle départementale ensuite. Alors, je ne vais pas revenir en détail, hein, sur la genèse de ce mouvement syndical à l'échelle nationale. Je veux juste rappeler que la Confédération paysanne a été créée en 1987 par la fusion de deux syndicats minoritaires, petits syndicats, eux-mêmes créés au début des années 80, donc la CNSTP, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, la CNSTP, créée en 1981, et la Fédération nationale des syndicats paysans, la FNSP, créée, elle, en 1982. Alors, il y a un article assez connu, hein, celui de Rosemarie Lagrave, publié dans un ouvrage qui s'appelle « Les agriculteurs et la politique », publié en 90, qui revenait sur les cheminements organisationnels qui avaient abouti à la création de la Confédération paysanne en 87. En gros, la CNSTP a été formée par les militants qui avaient animé le mouvement des paysans travailleurs dans les années 70, juste après, à partir donc, du début des années 70, des militants qui avaient rompu avec la direction nationale du CNJA, notamment, alors que la FNSP, elle, a été fondée en 82 par quelques FDSEA, hein, dissidentes, qui s'étaient éloignées, là encore, de la direction nationale de la FNSEA à la fin des années 70, notamment autour de la FDSEA de Loire-Atlantique, exclue de la FNSEA en 1978. Donc voilà, en gros. En fait, peut-être plus important, au-delà de ces cheminements organisationnels, l'histoire de cette nouvelle gauche paysanne, comme on l'a qualifiée dans les années 70, on parle de nouvelle gauche paysanne, l'histoire de cette nouvelle gauche paysanne confronte à une histoire collective qui a longtemps été occultée, hein, en sciences sociales. On a peu de travaux, il y avait peu de travaux sur cette histoire collective. C'est celle, au fond, d'une génération 68 dans le monde agricole. Il y a bien, on peut vraiment parler, de mon point de vue, d'une génération 68, marquée notamment par des processus de conversion politique, de radicalisation politique caractéristique de cette période. Je pourrais éventuellement y revenir tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que cette histoire nationale, entre guillemets, ne coïncide pas toujours avec les histoires départementales, quand on travaille sur des départements en particulier. Je vais aller vite, mais dans certains départements, dans les années 80, la gauche paysanne, syndicale n'est représentée que par une seule structure, soit adhérente de la CNSTP, soit adhérente de la FNSP. Une structure dont l'histoire peut effectivement être liée aux contestations des années 70. C'est le cas dans l'Orne, où dans les années 80, on a une structure adhérente de la CNSTP, des travailleurs paysans, et qui est effectivement animée dans les années 80 par des militants qui ont rompu avec le CNJA dans les années 70. Dans d'autres départements, on a bien la fusion en 87 de deux structures, donc l'une adhérente de la CNSTP, l'autre adhérente de la FNSP. Mais en fait, l'émergence de ces deux collectifs syndicaux peut être située au début des années 80 et non pas dans les années 70, qui n'est quand même pas, au début des années 70, qui n'est quand même pas la même chose. On a 10 ans d'écart par rapport à l'Orne, par exemple. Et c'est le cas en Aveyron. C'est typiquement le cas en Aveyron, où ce sont les militants antimilitaristes, souvent objecteurs de conscience, qui s'étaient installés sur le plateau du Larzac à la fin des années 70. Si vous avez vu le film Tous au Larzac, on les voit, hein, on voit certains témoins, acteurs de cette histoire, dont José Bové, mais pas seulement, hein. Donc, qui s'étaient installés pour venir en aide aux 103 paysans, hein, en lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac. Et ce sont eux qui vont constituer d'abord donc une opposition syndicale et adhérer à la CNSTP au début des années 80. Puis, quelques années plus tard, on a un autre groupe, cette fois-ci plus seulement dans le sud du département, mais au centre et au nord du département, qui vont fonder donc une structure départementale adhérente de la FNSP. Puis on a encore, ce panorama est loin d'être exhaustif, hein, dans certains départements, la création d'une structure départementale confédération paysanne est plus tardive, hein, parfois il faut attendre la fin des années 80, voire le début des années 90, pour qu'on voit dans certains départements, donc des collectifs se structurer et adhérer à la confédération paysanne nationale. Donc on a, si on s'intéresse, si on fait en quelque sorte, met en œuvre une sociologie localisée, on a de toute façon des histoires collectives localisées qui sont, du strict point de vue des temporalités, différentes. Quelques mots sur la Confédération paysanne de l'Orne et la Confédération paysanne de l'Aveyron. Quelques éléments de comparaison. Au début des années 2000, le nombre d'adhérents est en gros équivalent. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'il faut entendre par adhérent. C'est-à-dire, grosso modo, on a 250 adhérents répertoriés dans les fichiers, sauf que ce sont des fichiers extensifs ou extensibles, puisque dans ces fichiers, il y a ceux qui sont effectivement à court de cotisation et ceux qui ont adhéré l'année d'avant, voire 2 ans avant, voire 3 ans avant. C'est-à-dire, ce sont les fichiers dont on se sert pour envoyer donc des tracts, des invitations pour inviter aux manifestations, aux réunions. Un nombre d'adhérents, donc 250, qui situe en gros les deux structures, hein, dans l'Orne et dans l'Aveyron, parmi les structures départementales rassemblant les effectifs les plus conséquents, hein, à l'échelle nationale, même s'ils restent inférieurs à ceux que l'on peut enregistrer en Loire-Atlantique, par exemple, hein, où le nombre d'adhérents est bien supérieur, ou dans la Manche aussi. Cela dit, au-delà du nombre d'adhérents, le groupe de militants réellement impliqués, c'est-à-dire ceux que j'ai côtoyés, moi, pendant l'enquête, hein, pendant 4 ans, entre 2000 et 2004, donc auprès desquels j'ai mené l'enquête, grosso modo, ce groupe est composé d'une cinquantaine de personnes, hein, dans les deux départements, une cinquantaine de personnes, c'est-à-dire qui on trouve les membres de ce qu'on appelle à la Confédération paysanne le comité départemental, c'est-à-dire une vingtaine de personnes qui, dans chaque département, représentent les petites régions agricoles, hein, les différentes zones d'un même département. Le comité départemental, c'est l'instance décisionnelle, hein, en général. On trouve qui les représentants du syndicat à la Chambre d'agriculture, les élus chambres, donc, les représentants du syndicat à la Commission départementale d'orientation agricole. Alors, je ne sais pas s'il faut que je disent de quoi il s'agit, la commission départementale d'orientation agricole, un petit peu, donc c'est ce qui a remplacé les commissions mixtes, hein, en 95, c'est-à-dire qui réunissent des représentants de l'État, hein, par l'intermédiaire du DDA, du préfet, et donc des représentants de la profession, et qui ont un rôle, les CDOA, il faut le dire, souvent plus important que les chambres d'agriculture, en réalité, notamment pour l'attribution des droits à produire, pour l'installation, etc. On trouve aussi ceux qui peuvent exercer des responsabilités nationales, hein, parmi ce groupe d'une cinquantaine de personnes, ceux qui vont écrire régulièrement un article dans le journal syndical départemental, ceux qu'on voit à toutes les actions, ceux qui s'occupent des journées de formation, ceux qui organisent des fêtes, etc. Donc, dans les deux départements, une cinquantaine de personnes. Donc moi, quand je parle de sociologie du militantisme, hein, je parle essentiellement, en l'occurrence, de ce groupe de personnes. Autre donnée, au moment de l'enquête, les deux structures départementales dans l'Orne et dans l'Aveyron figuraient parmi celles qui obtenaient les résultats les plus importants aux élections aux chambres d'agriculture. 31% et 44% pour la Conf Aveyron en 95 et 2001. 31 et 44, 33% en 95 et 32% en 2001 pour la Conf de l'Orne. Voilà, grosso modo, et entre parenthèses, ces deux structures ont connu un net recul au moment des élections de janvier 2007. Jusque dans l'Aveyron, la Conf est passée de 44 à 22% et dans l'Orne de 33 à 25%. Donc un recul un peu moins net. Deuxième point de présentation assez descriptive. Concernant la nature des propositions et des revendications, pas de divergence significative entre les deux départements. On retrouve les principaux axes revendicatifs de cette gauche paysanne à l'échelle nationale. Modifier les règles d'attribution des droits à produire, souvent donc avec une bataille sur les quotas laitiers pour le lait de vache, mais ça peut être le cas pour le lait de brebis aussi. Dans l'Aveyron, par exemple, c'est le cas. Dans l'Orne, par exemple, c'est toute la bataille, dans d'autres départements laitiers, sur la redistribution laitière, par exemple. Autre élément important de ce répertoire revendicatif, une plus juste répartition des aides européennes, la revendication d'un plafonnement des aides publiques, la lutte contre l'agrandissement excessif des exploitations, et puis aussi, mais ce n'est qu'une des composantes de ce répertoire revendicatif, je le dis parce que des fois il y a un peu confusion, tout le discours sur les modes de production, la promotion d'une agriculture paysanne, comme on le dit au sein de la Confédération paysanne, donc plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse donc de la santé des consommateurs. Une première différence entre les deux départements concerne le nombre de productions représentées au sein du groupe militant. Dans l'Orne, le groupe est principalement composé de producteurs de lait de vache. On a bien quelques militants qui se sont spécialisés en viande bovine, mais ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux, on le voit notamment au moment des élections aux chambres d'agriculture, où la liste présentée par le syndicat est essentiellement sur 21 en 2001, ça devait être quelque chose comme 18 ou 19 membres de la liste sur 21 qui étaient donc des producteurs de lait, de vaches. Dans l'Aveyron, on peut distinguer quatre types d'éleveurs spécialisés. Les producteurs de viande bovine dans le nord du département, les producteurs de lait de vache dans le Villefranchois et autour de Rodez, et au sud du département, donc sur le Larzac, mais pas uniquement sur le Larzac, des éleveurs de brebis dont certains seront spécialisés en lait et d'autres en viande. Ceux qui sont spécialisés en lait travaillent pour la grande majorité d'entre eux dans le système Roquefort. Donc dans l'Aveyron, on a la présence de quatre types de production qui tendent de fait, c'est pas négligeable, qui tendent de fait à augmenter la fréquence des prises de position et des interventions. Donc en soi, c'est pas négligeable. Enfin, et c'est ce qui surtout, pas seulement, mais c'est ce qui m'a surtout intéressé pendant la thèse, les deux structures syndicales se distinguent sur deux points précis, le mode d'expression de la contestation et le statut de l'action syndicale d'une part, le mode d'expression de la contestation et le statut de l'action syndicale, et la façon dont les deux collectifs se situent dans les débats nationaux. Et pour dire les choses rapidement, la Conf Aveyron apparaît beaucoup plus offensive, beaucoup plus radicale. Les actions sont beaucoup plus fréquentes, spectaculaires. Elles sont beaucoup plus fréquentes et spectaculaires et bien avant le démontage du McDonald's de Millau en 99, qui a entraîné une forte médiatisation, non seulement de la Conf Aveyron, mais de la Conf nationale. J'avais, dans ma thèse, il y a une liste d'actions très spectaculaires, conçues un peu sur le même mode depuis le début des années 80, grève de la faim, séquestration de responsables politiques, déménagement de bureaux, etc. Il y a eu des procès bien avant 99. Donc, les actions dans l'Aveyron sont conçues comme des moments de confrontation avec les représentants officiels de la profession ou avec les représentants du pouvoir politique. Et les militants aveyronnais, autre point, ont joué un rôle majeur dans les années 90 et après 99 dans le glissement de la structure nationale vers les thématiques altermondialistes. Quand on compare, la Confédération paysanne de l'Orne apparaît plus modérée. Beaucoup plus modérée dans ses prises de position, plus prudente dans la mise en œuvre des actions. Hein. J'ai suivi leurs réunions, moi, pendant 4 ans, et ce qui revient très souvent dans les réunions, c'est est-ce que c'est le moment pour mener une action? Mais si on fait une action, on ne va pas être assez nombreux, etc. Alors qu'au même moment, quand j'allais dans l'Aveyron, ils faisaient des actions à 4. Hein, 4 militants, en tongs, en lunettes de soleil, etc., qui allaient à la confrontation avec les CRS, et dont le but, évidemment, c'était d'être filmés, en train d'être tabassés, c'est leur mot, hein, par les CRS, mais du coup, ils pouvaient faire une action qu'ils pensaient, eux, efficace, à partir de 4 militants, et donc c'est quand même contrasté très fortement avec les doutes et les hésitations de la Confédération paysanne de l'Orne. Hein. Et donc, autre point, donc par rapport aux débats nationaux, en 2002, au sein de la Confédération paysanne nationale, il y a eu un grand débat sur l'orientation nationale du syndicat, sur le mouvement altermondialiste, et eux, les militants de l'Orne, à cette occasion, rédigeaient une contribution hein, dans laquelle ils affirmaient que l'orientation du département était le recentrage sur le local. Donc, en l'occurrence, une Confédération paysanne de l'Orne qui se situait un peu à contre-courant à ce moment-là hein, de l'évolution de la structure nationale. Et vous voyez, le problème d'une telle analyse, c'est que je viens de vous dire la Confédération paysanne de l'Aveyron, la Confédération paysanne de l'Orne, c'est-à-dire qu'on tend à réifier les collectifs comme si ces groupes étaient totalement homogènes, parlaient d'une même voix. Hein, et en fait, évidemment, quand on fait de la sociologie du militantisme, c'est-à-dire quand on se pose des questions très simples du type qui sont ces militants socialement, pourquoi ils militent, comment ils militent, comment s'agencent les positions hein, internes au sein des groupes, une telle description, évidemment, n'est pas suffisante. Au-delà de ces différences, au-delà de ces décalages entre structures départementales, donc on peut assez facilement, rapidement mettre en évidence en comparant, hein, il me semble possible donc de construire une réflexion plus générale sur les conditions de l'engagement de la Confédération paysanne. Donc c'était l'un des paris de ce travail de thèse, travailler sur les conditions de l'engagement de la Confédération paysanne. C'était le résumé que j'avais proposé. Hein, les conditions d'engagement de la Confédération paysanne. Et quand j'ai préparé mon intervention, je me suis dit que ce que j'avais proposé dans ce résumé allait m'engager, au fond, à revenir sur la quasi-totalité de ma thèse, qui, dans le temps imparti, était évidemment impossible. Donc j'en suis navré. Je ne sais pas pourquoi j'ai proposé ce résumé à l'époque. En gros, il y avait trois conditions. Il y avait trois conditions, selon moi. Hein, c'était, d'une part, revenir au fond, comprendre les conditions de l'adhésion à ce que j'avais appelé une idéologie spécifique, qui me semble structurante du militantisme, de l'engagement à la Confédération paysanne. J'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que vous allez comprendre pourquoi on peut parler d'idéologie. La deuxième condition, c'était, une fois qu'on avait fait ça, hein, donc c'est comme ça que je le présentais dans la thèse, au fond, comment s'homogénéisent les collectifs? C'est-à-dire comment les militants arrivent à produire de la cohésion, arrivent à produire des collectifs. Donc c'était, au fond, les mécanismes, c'est vrai pour tous les collectifs, hein, me semble-t-il, quelles sont les règles, les dispositifs qui font que ces militants arrivent à produire des collectifs ensemble, souvent de façon tacite, d'ailleurs. Troisième condition, et là c'est là où on revenait à l'intérêt de la comparaison, c'était en gros que ces conditions quand même étaient spécifiées par les histoires hein, départementales, les histoires locales, l'histoire des configurations départementales. Alors le premier point, et ça renvoie à la question de l'idéologie, la thèse s'appelle « À juste distance du monde agricole ». Donc le premier point, c'est « À distance du monde agricole ». Et pour poser les enjeux hein, d'une analyse du militantisme à la CP, je vais commencer par citer un extrait d'entretien assez long que j'ai réalisé non pas dans l'Orne et dans l'Aveyron, mais en Côte d'Or, donc en 2008, dans un petit village du nord de la Côte d'Or, avec une agricultrice à la retraite, Thérèse, qui avait 75 ans au moment de l'entretien. Et j'avais rencontré Thérèse quelques jours plus tôt au moment d'une manifestation contre la fermeture d'une maternité de l'hôpital public local. C'était sa première manif, comme elle me l'avait dit d'ailleurs. Donc je l'avais rencontré quelques jours avant. Et cet entretien d'ailleurs s'inscrivait dans une autre enquête. Et en fait, cet extrait va me ramener à la Confédération paysanne. Au cours de l'entretien, Thérèse porte un jugement très sévère sur l'évolution de l'agriculture et sur les générations d'agriculteurs qui ont succédé à la sienne. Donc Thérèse a 75 ans. Donc je vais vous citer hein, cet extrait d'entretien. Je lui pose la question. Vous vous reconnaissez pas dans cette génération-là, alors? Ah, absolument pas, non, absolument pas. C'est que franchement, il y a une mentalité dans l'agriculture qui est désolante. Hein. Bon, je ne peux pas parler ouvertement comme je le ressens, si vous voulez, mais dans les jeunes agriculteurs, c'est impossible. Le seul but, c'est toujours plus. Toujours plus, et tout le reste, c'est à part. Alors, ce qui est déplorable, et ça, je peux le dire, et ça peut être redit, je crois, enfin, à mon sens, ce qui est déplorable, si vous voulez, dans l'éducation de cette génération qui monte, c'est qu'ils naissent dans un milieu paysan. Alors, c'est très bien, mais en général, c'est pas des élèves extraordinaires, hein. dans le milieu normal, si vous voulez. Alors aussitôt qu'on peut, on va dans un milieu agricole, dans une école agricole, et on leur enseigne l'agriculture. C'est des gens qui n'ont aucune vision en dehors de leur propre cas et qui disent que des choses toutes faites. Ils répètent ce qui les arrange, voilà, aucune vue sur le monde. Quand vous entendez parler qu'on fait du biocarburant avec du maïs et que les petites filles de ces pays-là mangent les galettes de terre parce que les parents ne peuvent plus acheter la galette de maïs, ça ne les touche absolument pas. Ça, c'est des choses qui nous, enfin moi, enfin je sais que mon mari, votre mari avait la même sensibilité que vous, tout à fait, il aurait été ému et malheureux comme moi je le suis. Faire du biocarburant pour faire rouler les bagnoles au lieu d'apprendre qu'on peut peut-être se passer d'un 4x4 quand on en a deux. C'est à ce niveau-là, quoi. C'est à ce niveau-là, 4 voitures pour 3 personnes dans une même famille. Une Mercedes pour la famille, une petite voiture pour madame, 2x4 pour les hommes. Pour moi, c'est pas une question de jalousie. C'est vrai que chacun bénéficie de la situation où il est. S'il y a un avantage, on le prend. On n'est pas que des saints. Sauf qu'il faut aussi pouvoir considérer ce qui se passe ailleurs. Comment vivent les gens? Pourquoi il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans les voitures? Pourquoi quelqu'un qui a un tout petit salaire, il ne va plus pouvoir payer son loyer? Alors cet extrait d'entretien, évidemment, d'abord parce qu'il est quand même assez explicite, c'est assez rare d'avoir des extraits d'entretien qui disent autant de choses, ce point de vue n'est pas celui d'une agricultrice qui, avec son mari, serait restée à l'écart des processus de modernisation de l'agriculture. C'est même plutôt l'inverse, puisque donc son mari, André, qui était décédé au milieu des années 90, il avait acquis le premier tracteur, la première moissonneuse-batteuse du village, et ensuite ça a été un responsable professionnel agricole, élu à la Chambre d'agriculture, administrateur à la coopérative, à la caisse locale du Crédit Agricole. Donc André et Thérèse ont plutôt été des acteurs de cette modernisation, entre guillemets, donc entre les années 50 et les années 70. Alors ils n'ont jamais été adhérents, ni encore moins militants de la Confédération paysanne. Mais à la fin de l'entretien, Thérèse me dit, sur le mode de la confidence, qu'elle se sent proche à tout point de vue, je la cite, hein, proche à tout point de vue de la Confédération paysanne, et qu'elle apprécie particulièrement un couple de militants, hein, donc qui habitent pas très loin de chez elle, dans le nord de la Côte d'Or, et d'ailleurs elle s'investit au sein de l'association Emmaüs avec la femme de ce couple, donc de militants qui militent eux depuis très longtemps à la Confédération paysanne. Alors elle me dit ça à la fin de l'entretien, et après tout ce que j'avais entendu sur le même registre, sur le même mode, ce discours-là, à ce moment-là, ne pouvait pas me surprendre, tant il s'accordait avec les discours que j'avais recueillis pendant 4 ans auprès des militants de la Confédération paysanne de l'Orne et de l'Aveyron. Des discours que j'avais recueillis donc dans le cadre d'entretiens enregistrés, une cinquantaine d'entretiens enregistrés, une durée moyenne de 2 heures, mais aussi des discussions informelles, mais aussi, et c'est tout l'intérêt quand même d'un travail, ce qu'on appelle souvent une enquête de terrain, l'observation de réunions, des réunions internes, des syndicats, et notamment dans l'Orne, des réunions publiques, mais aussi le fait de les suivre dans les manifestations, le fait d'aller à des fêtes organisées par des militants, etc. Donc ce discours de Thérèse correspondait exactement au discours que j'avais entendu pendant 4 ans. Et au fond, il me semble que l'un des principaux enjeux, si ce n'est le principal enjeu, d'une sociologie du militantisme à la Confédération paysanne, c'est de rendre compte de cet espace social spécifique, il me semble qu'on peut parler de ça, d'un espace social spécifique que constituent les groupes militants donc de la Confédération paysanne. Et donc l'un des principaux enjeux, c'est d'essayer de comprendre cette mise à distance des autres paysans, des autres agriculteurs, par laquelle donc les paysans conf, comme ils se qualifient eux-mêmes, des fois ils s'appellent, ils disent des autres militants, c'est un paysan conf, donc par laquelle les paysans conf se situent constamment dans la profession agricole. Et évidemment, quand on dit ça, il faut mettre des guillemets à la profession agricole, puisque s'il y a bien une chose que révèle une enquête sur la Confédération paysanne, c'est qu'évidemment, on a affaire à un espace social qui, économiquement, mais surtout culturellement, est loin d'être homogène. Alors, comment s'exprime cette mise à distance d'une manière générale? Elle peut renvoyer à des éléments du discours syndical, par exemple la critique de l'agrandissement des exploitations, quand il parle des comportements des voisins qui ne cessent de s'agrandir, etc. Ou alors la critique des modes de production intensifs, avec leurs conséquences sur l'environnement. Mais plus intéressant, cette mise à distance intègre donc des logiques de différenciation sociale qui n'apparaissent pas à l'état explicite dans le discours du syndicat. Dans les discours qu'on recueille quand on fait des entretiens avec les militants de la Confédération paysanne, il y a certaines constantes qui n'apparaissent jamais dans le discours syndical, le discours public du syndicat. Et la dimension la plus structurante, c'est celle qui celle qui renvoie à l'idée que les agriculteurs, ils disent les militants disent soit les agriculteurs, ils disent soit les agriculteurs, soit le monde paysan, soit le monde agricole, hein, pour parler des autres. Donc ils essentialisent et ils homogénéisent, hein, d'une manière générale, tout ce qui renvoie donc à un univers agricole qui ne serait pas celui, hein, de la Confédération paysanne. Et donc l'idée qui revient souvent, c'est que le monde paysan ou les agriculteurs ne se préoccupent pas ou ne se préoccupent que de leurs propres intérêts, puisqu'ils seraient aveugles et sourds aux problèmes que connaissent les autres groupes sociaux. Idée très fréquemment exprimée donc par une opposition entre fermeture et ouverture. Le mot ouverture, assez bizarrement, je m'en suis pas rendu compte aussitôt d'ailleurs, est revenu systématiquement, enfin, quasi systématiquement dans les entretiens. Le mot ouverture. Autrement dit, nous sommes des paysans ouverts. Ouverts à ce qui se passe ailleurs, ouverts à ce qui se passe dans d'autres régions, ouverts à ce qui se passe dans le monde, alors que le monde agricole, j'utilise cette expression qui homogénéise donc volontairement, le monde agricole, lui, est un monde fermé sur lui-même. Le mot revient très souvent, le monde agricole est un monde fermé sur lui-même. Alors ce n'est pas seulement du discours, c'est-à-dire que ça renvoie, ces logiques de différenciation renvoient à certaines rationalisations des pratiques professionnelles. Par exemple, la question du temps de travail. Je vais vous citer très rapidement ce que disait un jeune militant en 2002 dans l'Orne, hein, avec qui j'avais passé la journée, à la fin de la journée, donc on avait fait un entretien, et dans l'entretien il disait la chose suivante: j'ai un stagiaire là qu'on a en ce moment, il a 17 ans le gamin, il serait fou de rester une après-midi là à discuter, parce que pour lui ça sert à rien de discuter, parce que pour lui si t'es pas dans le champ et que tu bosses pas, il peut pleuvoir 50 mm de flotte, ils vont se foutre sous la flotte les mecs, ne serait-ce que pour pas se faire traiter de feignant, tu vois, ils hallucinent complètement, ils sont fous, moi je préfère me faire traiter de feignant mais d'avoir du temps libre, voilà. Alors lui il exprime à sa manière, de façon un peu virulente, mais la question effectivement du temps, hein, du temps libre, et qui renvoie à la question des GAEC, hein, qui renvoie à la question des vacances, forte valorisation des vacances aussi chez les militants conf. Voilà, c'est une constante aussi. Donc, en gros, on a des principes de classement dans l'espace social agricole qui sont assez homogènes, et donc cela a impliqué d'aller au-delà d'une simple caractérisation, hein, du syndicat comme un espace réunissant des agriculteurs de gauche. La Confédération paysanne, ce n'est pas seulement des agriculteurs de gauche. Voilà. Si on pourrait dire, on peut dire ça de la façon suivante. Cela dit, même quand on a dit ça, ça ne va pas de soi, puisque même une fois qu'on a dit que ce sont des agriculteurs de gauche, encore faut-il se poser la question, pourquoi ce sont des agriculteurs de gauche, quand on sait que, vous le savez, hein, en grosso modo, à chaque élection, à peu près, hein, les agriculteurs, en tant que catégorie socio-professionnelle, se prononcent très majoritairement entre les deux tiers et les trois quarts d'entre eux, hein, pour les candidats situés à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ces derniers temps, c'est plutôt les trois quarts d'entre eux, d'ailleurs. Donc voilà, une autre question, comment se fait-il que ces agriculteurs votent à gauche? Ils votent donc, ça va de l'extrême gauche au Parti Socialiste, hein, et ça va d'autant moins de soi, hein, si je puis dire, que les fils et les filles d'agriculteurs, hein, les enfants d'agriculteurs, c'est moins vrai pour les néo-ruraux, les fils et les filles d'agriculteurs ont été socialisés dans des familles ancrées à droite, hein, de l'échiquier politique, dans des familles catholiques pratiquantes, hein, souvent, où, au sein desquelles l'ancrage à droite allait souvent aussi de pair avec une profonde méfiance à l'égard de la politique, à l'égard des positionnements politiques explicites, puisque cela pouvait engendrer des conflits, hein, dans l'espace local. Donc voilà, en gros, ce qui pourrait être la première étape, hein, d'une analyse des conditions de l'engagement à la Confédération paysanne, c'est rendre compte des mécanismes de l'adhésion donc à cette idéologie spécifique, mais évidemment à condition de ne pas réduire l'idéologie à un corpus de doctrine, si vous voulez, pas réduire l'idéologie aux seules idées spécifiquement politiques, ou alors à ce qui pourrait être dit dans le cadre du combat syndical, mais en considérant plus largement ici l'idéologie comme un système de représentation du monde social en général et du monde paysan en particulier, donc à partir duquel donc ces militants vont, on pourrait dire, s'inventer une position dans l'espace social agricole, et donc une position marginale, hein. Il y a tout un truc sur nous sommes des paysans marginaux, nous ne sommes pas comme les autres, hein. Et donc un système de représentation, de perception, à partir duquel ils vont cultiver aussi cette singularité, ces singularités professionnelles. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut ajouter que évidemment cette rupture là d'identification au monde agricole, elle n'est pas totale, puisque si elle était totale, on peut supposer en tout cas qu'il ne chercherait pas à représenter les agriculteurs, c'est-à-dire qu'il ne consacrerait pas autant de temps et d'énergie à un travail de représentation de la profession, ou du moins à un travail de représentation des petits agriculteurs. En revanche, on a bien une tension chez les militants de la Confédération paysanne qui me semble être constitutive de l'engagement donc dans ce syndicat. Poser la question en ces termes me permettait en tout cas de ne pas confondre les motifs avancés par les militants en entretien. Bon, évidemment, ils cherchent à répondre à cette question, pourquoi ils s'engagent donc, et les ressorts de l'engagement. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque les justifications que les militants proposent en entretien sont largement dépendantes, comme tous les collectifs, comme toutes les organisations militantes, les justifications sont largement dépendantes d'un travail collectif, d'une mise en mots collective. C'est un travail de justification, donc qui est partagé plus ou moins par l'ensemble des militants. Et donc, une des façons, à mon avis, de contourner cette difficulté, ça consiste à interroger ce que certains sociologues du politique ont appelé les rétributions symboliques de l'engagement. C'est notamment le cas d'un politiste qui s'appelle Daniel Gaxi. Daniel Gaxi, qui a écrit sur les rétributions symboliques de l'engagement, donc une idée qui est très utilisée en sociologie du militantisme. Donc, il avait écrit cet article fondateur dans la Revue française de sciences politiques en 1977. Donc rétribution symbolique par rétribution matérielle, et avec la Confédération paysanne, on a bien un cas où les rétributions matérielles sont nulles, de toute façon, les dépenses étant largement supérieures aux avantages, aux rétributions matérielles. Cela dit, ça pose une autre question, puisque la question des rétributions symboliques, évidemment, si elle ne peut être posée que mise en relation avec la question des trajectoires antérieures ou concomitantes à l'engagement. En gros, on ne peut étudier cette question des rétributions symboliques, on pourrait dire ça comme ça, qu'avec la question des identités sociales ou professionnelles de ces militants. Donc la question était devenue la question suivante: dans quelle mesure l'engagement dans ce syndicat permet à ces agriculteurs de conforter, de renforcer ou d'actualiser des dispositions préalablement intériorisées. Donc je parle de dispositions de façon assez classique dans la sociologie bourdieusienne, on peut dire ça comme ça. Après, il y a différentes façons d'être bourdieusien, mais en l'occurrence, la question des dispositions me semble fondamentale. Alors je ne vais pas évoquer ici les néo-ruraux, je ne vais évoquer que les héritiers, ceux que j'avais appelés les héritiers dans ma thèse. Héritier pas au sens d'une élite économique d'ailleurs, mais tout simplement parce que pour ces enfants d'agriculteurs, la question de la succession, de l'héritage, s'est posée et d'une façon particulière à un moment donné. C'est un nœud, on peut dire, c'est un moment important dans leur trajectoire. Je ne vais pas l'évoquer, juste comme ça, au passage, personnellement je mets toujours néo-ruraux entre guillemets, parce que ce qu'il y a de gênant dans cette expression, c'est l'idée qu'évidemment, là encore, on aurait affaire à une homogénéité sociale. Parmi ces néo-ruraux, à la Confédération paysanne, il n'y a pas d'homogénéité sociale. Je vais très vite, mais les origines sociales, les parcours scolaires, les conditions de l'installation, etc., sont très différentes. D'une certaine façon, l'homogénéité est presque plus grande parmi les héritiers. Au passage, les néo-ruraux donc sont très peu présents, par exemple, dans un collectif comme celui de l'Ordre, mais sont beaucoup plus représentés ou plus présents dans certains collectifs du sud de la France. C'est le cas dans l'Aveyron, c'est à peu près moitié-moitié. Dans certains départements, ils sont majoritaires, très nettement majoritaires. Donc, il me reste un petit quart d'heure, je dirais. Je vais évoquer les trajectoires sociales et les processus de politisation. On pourrait commencer par une bonne idée, mais qui serait une fausse bonne idée, selon moi. L'idée, ce serait que... Parce qu'en gros, il y a un tropisme culturel à l'égard des classes moyennes diplômées. Et les classes moyennes diplômées, surtout ceux des secteurs de la santé, du travail social, de l'éducation. Grosso modo, voilà, c'est ça. Une fausse bonne idée, ce serait la suivante, c'est-à-dire que ces agriculteurs, isolés politiquement, dans le monde agricole, ou dans leur environnement professionnel, chercheraient des appuis ailleurs. Chercherait des formes de reconnaissance ailleurs. Alors, c'est pas faux, et ça joue notamment c'est intéressant parce que c'est effectivement ce qu'on peut voir quand c'est ce qui a pu se faire au moment, par exemple, des collectifs anti-OGM, au moment des manifestations, après le McDo, etc. C'est aussi, voilà, ça sert aussi à ça. Ça a aussi cette fonction-là. Sauf que ce raisonnement, évidemment, ça n'aide pas à comprendre pourquoi ces agriculteurs sont devenus des agriculteurs de gauche. Pourquoi ces agriculteurs se sont sentis autorisés à porter et incarner une parole contestataire dans le monde agricole. Et ça va pas de soi. Et en sociologie politique, il faut poser cette question-là. Évidemment, de la même façon, entre parenthèses, qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a les trois quarts des agriculteurs qui votent aujourd'hui à droite. Et à mon point de vue, les explications qu'on propose la plupart du temps sont évidemment insuffisantes. Ce n'est pas, par exemple, uniquement la condition d'indépendant ou leur plus grande croyance religieuse qui expliquerait qu'ils voteraient, évidemment, pour les partis droite. Ça ne marche pas, mais je pourrais y revenir, si vous voulez, par la suite. Donc, il fallait comprendre pourquoi ces agriculteurs étaient progressivement devenus des agriculteurs de gauche, et la question se pose d'autant plus pour les fondateurs, c'est-à-dire pour ceux qui appartiennent à la génération 68, c'est-à-dire ces enfants d'agriculteurs qui, au tournant 68, surtout après, au début des années 70, vont porter un discours marxiste, marxisant, sur le monde agricole. Quand je dis vont porter, certains vont s'engager dans des groupes d'extrême gauche. Au cours des années 70, j'ai des extraits d'entretien avec des jeunes, avec des agriculteurs du bocage de l'Orne qui vont en Albanie ou en Chine, dans les années, au milieu des années 70, qui partent un mois, deux mois en Albanie ou en Chine. Donc c'est pas, voilà, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de structurant dans leur trajectoire. Donc en gros, j'ai essayé d'analyser ensemble à la fois ce que j'ai appelé le désencastrement symbolique du monde agricole et ses subversions politiques, et donc essayer de comprendre les deux ensemble. Et donc si on cherche à restituer ces trajectoires individuelles, en essayant de les mettre en relation avec... Alors, j'ai écrit la processus de longue durée. Alors évidemment, pour un politiste, la processus de longue durée, c'est 60 ans. Donc je m'excuse auprès des historiens. Parce que pour les politistes, c'est beaucoup. Voilà. Donc en gros, si on essaye de mettre en relation ces trajectoires avec quelques éléments d'histoire sociale de la profession agricole, on peut mettre en évidence, me semble-t-il, ce qu'on peut appeler une homogénéité dispositionnelle. Donc je vais aller très vite, je suis désolé. En gros, quelle que soit la génération, ces enfants d'agriculteurs, on peut dire qu'ils ont été socialisés dans des fractions culturellement dominantes de la profession agricole. Pas nécessairement économiquement, mais culturellement, c'est-à-dire dans des familles pour lesquelles les perspectives d'ascension sociale reposaient, plus que dans d'autres familles, selon moi, sur des stratégies de promotion scolaire. Et il y a un indicateur assez net, ce sont les trajectoires scolaires des frères et sœurs. Et notamment les trajectoires des frères et sœurs aînés, puisque dans la plupart des cas, ces militants de la Confédération paysanne ne sont pas des aînés, ce sont des cadets. Ces frères et sœurs aînés sont bacheliers et souvent diplômés de l'enseignement supérieur. Alors aujourd'hui, ça peut apparaître comme une banalité, sauf que là, notamment quand on prend la génération des fondateurs, nous sommes dans les années 60. Dans les années 60, des enfants d'agriculteurs bacheliers, voire étudiants, grosso modo, il faut quand même, à l'échelle nationale, vous savez, en 68, à peu près, c'est 10% d'une classe d'âge qui va au baccalauréat. Donc, vous imaginez, donc, chez les agriculteurs, donc une petite minorité longuement scolarisée. Il s'agit aussi de familles, donc d'agriculteurs, qui ont activement participé des années 50 aux années 70, en gros, à l'application des politiques d'incitation à la modernisation des exploitations agricoles. Beaucoup de parents, notamment des fondateurs, enfin la première et la deuxième génération, j'y reviendrai, ont par exemple créé des coopératives, ont été à l'origine de coopératives, ont été administrateurs au Crédit Agricole, ont animé des groupes de vulgarisation technique, ce genre de choses. Donc des familles qui ont, vous savez, Patrick Champagne parle son ouvrage qui s'appelle L'héritage refusé, qui est un recueil d'articles fondamental de mon point de vue en sociologie et en sociologie de la profession agricole. Il parle du capital technique pour parler de ces années 60-70 comme dimension du capital culturel. Et il y a bien, chez ces familles agricoles, on voit bien le lien. C'est très net. Et donc, des familles qui ont pleinement tiré profit. En gros, ce qui se passe aussi dans ces années-là, mais vous le savez mieux que moi, c'est que, en gros, il y a substitution de la productivité, substitution de la productivité à la seule dimension des exploitations comme critère d'évaluation la réussite professionnelle. Et c'est typiquement le cas de ces familles, c'est-à-dire qui au départ ne disposent pas d'exploitation importante, parmi les plus importantes, mais qui vont totalement, au cours de ces années, en tout cas augmenter la productivité et réussir hein, à augmenter la surface de leur exploitation au cours des années 70-80. Alors qu'au départ, hein, alors j'ai un cas, là, un militant de l'Orne, qui d'ailleurs qui a été porte-parole, hein, qui dit « Mon père avait la plus petite ferme du centre de gestion hein, au niveau départemental, et évidemment, cette petite ferme, la plus petite ferme du centre de gestion est devenue une des fermes les plus importantes, mais en tout cas, surtout, l'une des plus productives du canton. » Par la suite. Et donc, valorisation des savoirs techniques, plus longue scolarisation. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve pour la première génération, vous savez, Pierre Muller, je sais pas si vous connaissez ça, hein, le technocrate et le paysan, il a beaucoup travaillé sur le CNJA des années, de la charnière des années 50 et 60, hein, ce qu'on appelait la génération de Baptiste, et il parlait d'une paysannerie moyenne en voie de modernisation. Hein, pour qualifier cette paysannerie. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve les fondateurs au départ, dans un premier temps, hein, les fondateurs de cette couche paysanne au CNJA, hein, en tout cas dans les CDJA, puisque socialement, hein, ce sont grosso modo, au départ, hein, sont très proches en tout cas. Concrètement, donc, plus longtemps scolarisés, ces militants de la Confédération paysanne, plus longtemps scolarisés, plus diplômés donc que les enfants d'agriculteurs appartenant à leur génération scolaire. Pour donner un exemple, la première génération, donc celle que j'ai appelée la première génération, née entre la fin des années 30 et le début des années 50, grosso modo, leur scolarité, donc antérieure à la généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire, c'est que c'est dans les années 60, 70 que ça bascule, et tous ces militants se distinguent, puisque c'est une vraie distinction, hein, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, se distingue par une scolarité post-primaire, par exemple dans une maison familiale rurale, mais aussi certains font une classe de 6e et de 5e dans un collège, d'autres vont même jusqu'au lycée, dans un lycée agricole, certains, ils sont très rares, hein, mais certains vont même jusqu'au BTS hein, pour cette première génération, ce qui est très très rare. Alors le problème est... Là, on arrive à la question de la tension. Donc, c'est un fort, fort investissement sur la scolarité des enfants hein, dans ces familles. Sauf qu'évidemment, les parents ne peuvent pas laisser tous leurs enfants quitter l'exploitation familiale. Hein. Évidemment. C'est-à-dire que ces militants, très rapidement pressentis pour assumer la succession familiale, ont vu leurs frères et sœurs aînés, souvent, hein, échapper à l'agriculture. Donc, poursuivant des études secondaires et supérieures, mais donc ils n'ont jamais été mis en, réellement en situation d'être associés à cette réussite scolaire.
Il y a une chose qui m'a marqué pendant les entretiens, et ça c'est...
Pareil, c'est une constante. À chaque fois que je parlais de l'école, ils me disaient, vous savez, moi j'ai été nul à l'école, j'ai été nul à l'école. Et en fait, en réalité, c'est pas vrai, puisqu'ils sont ils ont été plus longtemps scolarisés que les enfants d'agriculteurs de leur génération, j'ai travaillé canton par canton, etc., c'est très net. Et en fait, il y a une comparaison avec la trajectoire, hein, parcours scolaire des frères et sœurs qui, eux, ont bien mieux réussi, scolairement, bien sûr. Donc, l'idée, hein, l'hypothèse, c'est que dans ces sous-espaces professionnels, la préparation à la succession s'est accompagnée d'une tension beaucoup plus forte, à mon avis, qu'ailleurs, entre la perspective du maintien dans le milieu d'origine et la découverte précoce d'autres univers sociaux et politiques. Des socialisations spécifiques qui éclairent en grande partie l'autre caractéristique distinctive de ces trajectoires sociales, puisque nombreux sont ces enfants d'agriculteurs qui ont connu une ou plusieurs expériences du salariat avant l'installation. Alors d'ailleurs, une ou plusieurs expériences du salariat, soit dans le monde agricole, certains ont été salariés agricoles, ou salariés d'une coopérative par exemple, mais aussi hors de l'agriculture. Hein, on a par exemple des cas de... Donc c'est ceux qui viendront, donc ceux qui s'installeront, mais avant de s'installer, certains ont été éducateurs, mais éducateurs non diplômés, puisque c'était avant donc l'obligation du diplôme pour pouvoir entrer dans la profession. D'autres ont été démarcheurs en assurance, d'autres ont travaillé dans une banque, etc. J'ai l'exemple en tête là, mais aussi ouvriers à l'usine, mais aussi routiers, etc. Avant de s'installer. Alors donc on a un éloignement de l'exploitation familiale qui des fois s'étend sur une dizaine d'années. Des fois, ça s'étend sur une dizaine d'années. Alors, ces expériences professionnelles, là encore, alors aujourd'hui, elles apparaissent assez banales, c'est assez fréquent, hein, sauf que dans les années 60 et 70, ça ne l'est pas du tout, ça l'est beaucoup moins. hein, notamment dans l'Orne, par exemple, c'est assez peu fréquent. Et donc, ça singularise bien quand même ces parcours. Entre parenthèses, si certains se sont éloignés aussi longtemps de l'exploitation familiale, c'est tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas travailler avec leurs parents. C'est-à-dire que derrière, il y a la situation d'aide familiale. Hein. Vous savez, notamment pour les premières générations, après leurs études, la plupart revenaient sur l'exploitation familiale, où ils avaient de l'argent de poche, grosso modo. Et souvent, il y a l'impossibilité, là, pendant cette expérience, de l'idée de s'installer, hein, à court terme avec le père ou ses parents, c'est tout simplement inenvisageable. Donc du coup, on prolonge cette période d'indétermination là, pendant parfois de très longues années. En revanche, ça a fortement conditionné le choix de l'agriculture. Ils disent, et là encore, c'est une logique de différenciation par rapport aux autres agriculteurs, ils disent, moi, si je suis agriculteur, c'est parce que je l'ai choisi. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Évidemment, c'est un choix contraint. C'est un choix contraint. C'est-à-dire que c'est contraint notamment par les possibilités d'embauche dans d'autres secteurs professionnels. C'est aussi notamment lorsqu'ils sont ouvriers à l'usine, ils s'aperçoivent que finalement, ce serait peut-être pas mal de s'installer en agriculture au bout de quelques temps. Mais alors, je l'ai choisi, ça s'accompagne pour eux d'une modification des pratiques familiales. Dans pas mal de cas, certains acceptent de s'installer qu'à condition, par exemple, de s'installer en GAEC, de s'installer à plusieurs, c'est-à-dire de pouvoir partager le temps de travail, de pouvoir partager la prise de décision, etc. Donc, une tension, des injonctions contradictoires, on pourrait dire, auxquelles ont été confrontés ces héritiers. Et on peut dire qu'au fond, se classer à gauche, subvertir les affiliations politiques ordinaires, ça va permettre de réduire un peu ce que j'avais appelé donc des flottements statutaires. Alors après, évidemment, j'ai distingué des générations, donc une première génération de militants nés entre la fin des années 30 et le début des années 50, celle que j'ai appelée la génération 68, une génération 81 née entre le milieu des années 50 et la fin des années 60, et la génération des plus jeunes militants née dans les années 70. Alors ces générations, je les ai construites en fonction, par exemple, de l'histoire scolaire, de l'histoire des possibles scolaires. J'ai pris en compte les scolarités, parce qu'il y a de vraies modifications. J'ai pris en compte d'autres éléments qui renvoient à l'histoire sociale ou politique, c'est-à-dire la crise, par exemple, de l'Église catholique, qui joue un rôle très important pour la première génération. Par exemple, le fait que l'EMRJ, c'est alors pas partout, mais dans certaines zones, se politise, très à gauche, voire à l'extrême gauche, après 68, la crise du statut d'aide familiale, et bien sûr aussi des temporalités politiques, 68, 81, et pour le coup, la génération des plus jeunes militants évolue dans un contexte politique très, très différent. Et tout ça a des effets sur les types de politisation, donc, voilà, l'idée c'était ça, en gros, une certaine homogénéité dispositionnelle et quand même des petits décalages générationnels et je passe. En gros, donc voilà, quand on a fait ça, et je vais en arriver à la deuxième condition, enfin la deuxième idée à prendre en compte, celle de l'homogénéisation donc des collectifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, il me semble que le travail d'analyse n'est pas terminé. C'est-à-dire que reste à comprendre comment ces militants, même s'ils ont des trajectoires assez proches, peuvent produire un collectif, c'est-à-dire peuvent produire de la cohésion. Il y a Luc Boltanski, qui est un sociologue important, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les cadres », qui écrivait que l'homogénéité n'est jamais la condition suffisante et nécessaire de la cohésion. L'homogénéité n'est jamais la condition suffisante et nécessaire de la cohésion. Et des fois, on passe un peu vite des trajectoires de leur analyse à la cohésion supposée du collectif. Et donc, en gros, ça renvoie à la question des pratiques professionnel. La question de ce qu'on peut dire ou pas au sein du syndicat. Ce qu'il est possible de dire, par exemple, quand on confronte les réunions internes et les réunions publiques. Qu'est-ce que les militants du syndicat peuvent dire en réunion publique par rapport à ce qu'ils disent en réunion interne? Donc, premier constat, évidemment, mais ça c'est pas évidemment parce que c'est pas très original. En gros, la représentation du groupe suppose de taire un certain nombre de différences, de singularités. Alors, il y a plusieurs exemples, je vais en prendre qu'un. C'est par exemple l'exemple des modes de production. Plusieurs de ces militants, dans l'Orne notamment, se sont investis dans la promotion de l'agriculture durable, qu'on appelle aussi, donc là je renvoie aux travaux d'Estelle Deléage, qui est ici. Agriculture, donc, autonome et économe. Et notamment, par la promotion, vous le savez, des systèmes herbagers, donc comme remplacement du maïs, entre autres, mais du maïs, donc fourrage. Comment faire pour promouvoir ces systèmes herbagés qui correspondent tout à fait hein, au contenu même hein, du discours syndical, sans, comment dire, sans, il y a une militante qui disait, sans culpabiliser, c'est-à-dire sans condamner la majorité de, la majorité des agriculteurs qui continuent de recourir au maïs. Et ça pose un problème plus général pour un syndicat alternatif comme la Confédération paysanne, comment parler du travail? Comment parler du travail quand on cherche à la fois à déplacer, en gros, les normes, hein, à proposer un autre modèle, alors que la grande majorité des agriculteurs continuent, au fond, hein, de, à des degrés divers, hein, mais continuent, grosso modo, de travailler hein, conformément à un modèle qui s'était établi dans les années 70. Et donc, en gros, c'est les militants conf sont condamnés à un exercice de style très délicat. Et ça, on le voit très bien. Alors, par exemple, dans les crises, hein, c'est le mot donc, ils cherchent à promouvoir hein, des systèmes plus autonomes. Par exemple, des systèmes plus autonomes. Jamais ils ne parlent du maïs. Très clairement. Ils ne condamnent jamais le maïs. On parle de la viande bovine, jamais on va condamner explicitement le taurillon, par exemple. Après, alors que pour, c'est un enjeu important pour, par exemple, après la deuxième crise de la vache folle, moi c'était ma période d'enquête, c'était un enjeu très important pour les militants de la conf, hein, puisqu'on a donné évidemment des farines carnées à ces taurillons en quantité. Donc pour certains, par exemple, pour certains, la deuxième crise de la vache folle, c'est on arrête le taurillon chez les militants de la conf. On arrête, eux ont arrêté clairement. Certains sont passés en bio, etc. Comment faire pour ne pas le dire explicitement? Voilà. Ça, c'est un enjeu de l'homogénéisation organisationnelle. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. L'autre enjeu, c'est interne. C'est-à-dire qu'on retrouve la même logique au niveau interne, puisque au sein même des groupes, il y a des différences très nettes entre militants, différences en termes de surface, différences en termes de mode de production. Hein. Alors des fois, ça renvoie aux situations dont ils ont hérité aussi. Et donc, on a des décalages très importants. Alors, comment on fait? D'une certaine façon, dans les réunions internes, on ne parle pas des réunions qui fâchent. C'est-à-dire, on ne parle pas concrètement, on ne parle pas des pratiques professionnelles concrètes. C'est-à-dire que si vous avez un militant, par exemple, qui vient de s'agrandir pour pouvoir installer son fils, et dont la surface, par exemple, deviendrait un peu plus importante que la moyenne du canton, et que les autres militants le savent, ça ne peut pas être abordé en réunion interne. Parce que si on commence à aborder ça, on en vient à définir une norme, c'est-à-dire un paysan exemplaire. Mais si on commence à définir un paysan exemplaire, ça veut dire que c'est le militant exemplaire qu'on va dévaloriser, c'est-à-dire qu'en gros, ils craignent que le collectif explose, tout simplement parce que les situations sont totalement différentes. Donc en interne, il y a comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est jamais explicité, vous n'avez pas de règles. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles explicites, tout ça est tacite. Ça se fait dans le couloir, par exemple. On voit des militants très énervés contre un militant en particulier, il y a la réunion, on assiste à la réunion, et hop! On ne peut, parce qu'on ne peut pas en parler. Il y a une façon, par exemple, d'en parler, c'est l'humour, mais pas en réunion. Par exemple, quand on mange, je m'arrêterai là-dessus, quand on mange, par exemple, à la cantine, etc., au café, il y a le porte-parole, moi, pendant le temps de mon enquête, hein, il avait deux poulets industriels, et qui dit à un autre militant, ce porte-parole, hein, qui lui dit, t'as arrêté de fumer, et l'autre lui dit, j'ai pas arrêté de fumer, mais... Donc, comparaison avec les poulets industriels, et le porte-parole lui dit c'est moins nocif que la cigarette, les poulets industriels, et l'autre militant lui dit ça, on ne le sait pas encore. Et donc voilà. Et donc là, ça déclenche des rires, etc. Mais ça ne peut pas, voilà, on peut pas critiquer explicitement le poulailler industriel de ce militant. Donc voilà, ça c'était en gros ce qui m'intéressait, moi, c'est comme ça que les groupes arrivent à essayent de produire de la cohésion. Et la troisième condition, ça renvoie aux histoires départementales, aux configurations locales, mais je m'arrête là puisque je crois que j'étais un peu loin déjà.